Salut à toutes et à tous, bienvenue dans After Coupe du Monde, à écouter sur toutes les plateformes, sur l'appli RMC, vous le savez, à retrouver également sur After Foot Télé et sur YouTube. Vous pouvez nous laisser vos commentaires RMC Radio officiel de la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet prochain. Pour suivre tous les matchs de la compétition, c'est sur RMC que ça se passe et on va parler des 48 équipes. Et aujourd'hui, on vous propose de parler particulièrement de la Colombie et d'un certain Luis Diaz. C'est parti pour After Coupe du Monde.
RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes.
François Pinet.
Et pour en parler avec moi, j'ai deux spécialistes du foot sud-américain. Natalia Ruiz Giraldo, journaliste notamment pour France 24, est avec nous. Elle est colombienne. Salut Natalia.
Salut.
Merci d'être avec nous pour parler de cette équipe de Colombie. On dit bien les cafeteros?
Oui, ou los paisas, mais oui, les cafeteros,
pour, va, que ce soit tout le, tout,
pour que ce soit pour tout le
surnom.
Pays.
Très bien, parfait. Avec toi, Cindy Colmenares, spécialiste du foot sud-américain également. Bonjour Cindy.
Bonjour François, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de cette équipe de Colombie qui vraiment nous donne envie. Hein. On a envie de la voir parce qu'il y a des joueurs que l'on connaît, dont on va parler dans ce podcast, que ce soit Luis Diaz, que l'on voit avec le Bayern Munich briller, que ce soit également James Rodriguez qui est toujours là. Voilà deux des noms dont on va parler dans ce podcast After Coupe du Monde. Mais d'abord, on va s'intéresser au groupe de la Colombie. Le groupe de la Colombie, c'est le groupe K pour cette Coupe du Monde 2026, avec le Portugal, la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan. Voilà pour ce groupe. Et ça commencera d'ailleurs le 17 juin face à l'Ouzbékistan à Mexico. Ensuite, un match à Guadalajara contre la République démocratique du Congo. Et puis, le Portugal pour finir. Quand on voit ce groupe, j'ai envie de dire, Natalia et Cindy, que la Colombie doit au moins passer cette phase de poule.
Quand même. Face au Portugal, c'est vrai que ça peut être un peu piège, mais je pense que dans ces cadres-là, ils vont vraiment jouer les pressings. Et face au... ou plutôt être aussi avec leur bloc défensif. Et face au Congo, bon, bah là, ça va être... Il ne faut pas les sous-estimer. Voilà. Mm. C'est hyper important parce que c'est dans ce genre de matchs aussi qu'il peut y avoir des situations, mais je pense que ça va être... quand même relativement facile d'avancer.
Bon, en Colombie, comment on imagine le parcours quand on voit ce groupe-là de l'équipe nationale? Est-ce qu'on pense qu'elle peut aller loin?
Oui, 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 tout à fait. Après, effectivement, comme Cindy le disait, je pense que le plus difficile, ça va être le Portugal. Ouais. Un match pour lequel, en plus, toutes les entrées se sont vendues très, très, très vite. Et je pense qu'il y a ça. Après, l'idée, c'est quand même de commencer en gagnant ce premier match face à l'Ouzbékistan. Ouais. La RDC, c'est possible aussi de gagner. Le plus difficile, ce sera le Portugal. Mais l'idée, c'est effectivement d'arriver le plus loin possible. L'objectif, il est ça. Et il est plutôt... affiché, de plus en plus affiché, de se dire le plus loin possible, ça devient être au moins parmi les 8 premiers.
Moi, je dirais même si se puede, comme on dit en Colombie, comme ils disent les taxis en Colombie. Non, mais sincèrement, moi, je pense que l'objectif de l'équipe, même si, comme tu l'as dit, ils ne disent pas forcément de manière affichée, c'est vraiment 2014. Ils sont vraiment les garçons sur cette lancée, avec vraiment comme l'équipe qui a brillé en 2014, d'aller au moins en quart de finale. Et je pense d'ailleurs que les effectifs qui sont aujourd'hui, ils ont d'une part l'expérience avec James, mais ils ont également la jeunesse avec Luis Diaz, notre cher Lucho, qu'au Venezuela, je tiens à le dire, on dit qu'il est vénézuélien, parce que vous savez, au Venezuela, qui est mon pays, tout ce qui brille et qui est excellent en Colombie, on se dit toujours que ça vient du
que
Venezuela.
Soit d'accord.
Shakira, Jean Paz, c'est vénézuélien.
On parlera de Lucho dans un petit moment, mais d'abord, on va s'intéresser justement à cette histoire. Tu parlais de 2014, on va y revenir, la Coupe du Monde et la Colombie, c'est une histoire un peu controversé. On donne d'abord ces chiffres pour ceux qui nous écoutent. 13e du classement FIFA au moment où on enregistre ce podcast, 3e des nations sud-américaines hein, sur ce classement derrière l'Argentine et le Brésil. Ce n'est pas rien. Ça sera donc la 7e participation à un mondial après 62, 90, 94, 98, 2014, 2018 et donc 2026 pour ces retrouvailles entre la Colombie et la Coupe du Monde. Effectivement, la Colombie avait raté la dernière Coupe du Monde en 2022. C'est donc un nouveau départ pour cette sélection. La Colombie qui passe rarement inaperçue en Coupe du Monde. On va faire un petit historique, on a vu en 90 des joueurs iconiques hein, pour tous les fans de foot, que ce soit Higuita, qui était dans les buts à ce moment-là, Carlos Valderrama, bien sûr, le capitaine, hein, pas seulement pour la coupe de cheveux, mais aussi pour le niveau de jeu hein, de la Colombie. Symbole aussi du toqué, ce jeu très spécifique de la Colombie à cette époque-là. C'était vraiment la génération dorée là, dans ces années-là. Natalia.
Oui, tout à fait. Tout le monde sait que c'est une équipe qui a ouvert un chemin en fait pour la Colombie et qui a donné un nom à la Colombie dans la planète du football et surtout en Coupe du Monde. L'Italie 90, ce match incroyable face à l'Allemagne. Finalement, ils arrivent à faire un match nul qui leur permet d'aller en huitième. Après, ils se font éliminer
par le Cameroun.
Tout à fait. Mais ça a ouvert les portes. Et puis pour 94, on avait déjà une équipe plus mûre, une équipe qui était très solide, qui avait fait des résultats vraiment incroyables. Elle avait battu l'Argentine 5-0 et ça, c'est mythique. Vous dites à un Argentin 5-0, 5-0, et voilà.
Il sait de quoi on parle.
Voilà, il dit c'est humiliation, c'est pas possible. C'était en qualif, en fait, pour cette Coupe du Monde.
94, ouais.
Donc, ça a beaucoup marqué les esprits, cette équipe. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où ils se font une place. Effectivement, après, il va falloir attendre le Brésil 2014 pour avoir...
C'était un peu l'outsider, d'ailleurs, à ces moments-là.
En 94, oui. Ouais. Même favori, peut-être.
Hein. C'était l'outsider qui devient, qui brille, qui devient favori. Ouais. Après, il y a effectivement les événements tragiques.
On va en parler justement de cette année 94, c'est aux États-Unis, c'est aussi pour ça qu'on en parle, puisque même si les deux premiers matchs auront lieu au Mexique, il y aura ce match aussi à Miami, donc sur le territoire américain, ça rappelle forcément des mauvais souvenirs à toute la Colombie, parce que 94, pour les plus jeunes qui nous écoutent, eh bien, il y a ce drame, la Colombie qui n'arrive pas, malgré son statut de super outsider, à se qualifier et donc éliminer dès le premier tour, après des défaites contre la Roumanie et contre les États-Unis, une victoire insuffisante contre la Suisse. Il y a ce but marqué par Andrés Escobar contre son camp face aux États-Unis. Et Andrés Escobar, qui était défenseur donc, de cette équipe nationale, va être assassiné ensuite quand l'équipe colombienne revient au pays. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits. C'est le symbole aussi d'une Colombie, Natalia, qui était gangrénée par la violence, par la corruption, par justement le poids du narcotrafic à ce moment-là.
Oui. Oui, c'était une époque vraiment très compliquée en Colombie par cette violence et parce que le narcotrafic était partout. Pas seulement chez les gens puissants, mais dans le foot, bien évidemment, que ce soit surtout dans des villes comme Medellín ou comme Cali, par exemple, mais aussi autour de cette équipe de Colombie. Il y a eu beaucoup de cartels qui ont voulu avoir une certaine
influence.
Ouais. Et surtout parce qu'à ce moment-là... contrairement à 90, Maturana, qui était l'entraîneur de la Colombie, il n'avait pas blindé l'équipe. Au début, en 90, il a dit « on blinde, on ne laisse pas des accès aux journalistes ou autres ». En 94, ça a changé et ils ont laissé beaucoup, même de gens qui voulaient se prendre en photo ou disaient « viens, tu te prends en photo avec moi, je deviens ton sponsor », etc., etc. Et donc, il y a eu tout ça qui a été très compliqué dans ce pays à ce moment-là, avec beaucoup de violence, le narcotrafic, un petit peu la guérilla aussi entre-temps. Et finalement, ça s'est fini avec cette histoire de cette dispute à la sortie d'un restaurant près de Cali avec la mort d'Andrés Escobar. Voilà.
Donc ça, c'était évidemment 1994, période trouble pour cette équipe colombienne, génération dorée. Ensuite, ça se terminera pour cette génération dorée en 98 avec une élimination au premier tour en France avant de retrouver donc cette Colombie en 2014. Et là, c'est la plus belle des compétitions, Cindy et Natalia. Ça reste sans doute le meilleur souvenir pour la Colombie, puisque la Colombie va aller jusqu'en quart de finale.
Oui, et puis c'est aussi l'année de James. C'est là où il va vraiment se révéler. C'est l'année où la Colombie bat l'Uruguay. On se rappelle aussi avec Oscar Chavez qui dit mais ces joueurs, il est du niveau des Maradona, il est
avec
du niveau des Messi.
Hein,
oui, les Puskás.
Le plus beau but de la Coupe du Monde,
ouais,
l'histoire de la Coupe du Monde.
Les Puskás, et puis il a été les meilleurs joueurs. Donc, sincèrement, c'est vraiment les lettres dorées, c'est aussi Pekerman, voilà, parce que Néstor Lorenzo, il vient aussi de la bonne école. Moi, j'ai toujours tendance à dire ça. Et donc, vraiment, la plus belle année de l'équipe colombienne et je pense leur objectif aujourd'hui.
Voilà, James Rodriguez, on peut citer aussi Mario Yepes, Ospina, Cuadrado. On n'oublie pas que Falcao n'était pas là en 2014, alors qu'il brillait évidemment sur les terrains parce qu'il s'était blessé gravement avec Monaco. Et le parcours qui s'arrête face au Brésil, James meilleur buteur avec 6 buts, c'est la référence pour la Colombie, cette compétition 2014.
Absolument, oui, c'est la référence. Et c'est pour ça que pour cette Coupe du Monde 2026, l'idée c'est de faire au moins aussi bien qu'au Brésil, parce qu'on considère aussi qu'on a l'équipe pour le faire aussi, c'est-à-dire avec des joueurs un peu expérimentés, bien évidemment, comme James, par exemple. Mais il y a aussi des joueurs qui sont jeunes et qui apportent à nouveau une dynamique et de la vitesse à cette équipe, qui sont très bons. Ça, c'est la référence, bien évidemment. Après... Il faut voir de toute façon, mais il y a de toute façon Lorenzo qui a...
On va en parler, voilà, effectivement. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde 2014 allait rester dans les esprits, et notamment parce que le niveau de jeu de cette équipe colombienne était vraiment assez élevé. Et voilà, tout le monde était assez bluffé par cette équipe colombienne qu'on voyait aller peut-être même plus loin. Elle s'est arrêtée face au Brésil, mais on la voyait même aller plus loin.
On a écrit de très beaux articles de presse, même sur la presse espagnole, qui n'est jamais très tendre avec les Sud-Américains, ouais. Ça je dois le dire. Il y avait un article très beau écrit sur cette équipe de Colombie en 2014, où le journaliste il disait « cette équipe, elle joue comme les anges ».
Ah, c'est, voilà. Ouais. C'est vrai que c'était un jeu assez spectaculaire avec donc James Rodriguez. On va pouvoir en parler maintenant parce qu'il a pris de l'âge quand même, James, par rapport à 2014, mais il est toujours là. Voilà, c'est le point commun de cette génération exceptionnelle à la génération d'aujourd'hui. 34 ans désormais, il évolue en MLS dans l'équipe de Minnesota, James Rodriguez. 124 sélections, 31 buts, on l'a dit, meilleur buteur de la compétition en 2014. Toujours là, avec ce rôle de numéro 10, avec le brassard de capitaine aussi. Et est-ce qu'il est toujours indispensable ?
Je pense que l'équipe, en tout cas, tourne toujours autour de lui. Et pourquoi ? Parce que Néstor Lorenzo, déjà, c'est un sélectionneur qui est du genre à faire les changements progressivement. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va les mettre dehors. Et surtout, il croit en lui. Et je pense qu'il a même organisé tout pour que les joueurs, qui d'ailleurs ont vraiment beaucoup de respect pour lui, je pense notamment à Luis Diaz, qui dit carrément qu'il l'admire. À chaque fois qu'il marque un but, il lui met une couronne sur la tête. Enfin, non, mais on en est là. Et donc, et même des joueurs que j'ai vu passer quelques messages. Borré qui dit qu'il fait les efforts et s'y organise, Arias également, pour vraiment pouvoir coller avec ces joueurs. Et surtout, c'est un joueur qui change un match. Alors évidemment, il faut être pragmatique. C'est un joueur qu'on aimait MLS. Avant de jouer, par exemple, là, récemment contre la France, il avait joué juste 40 minutes, 30 minutes en MLS à Minnesota. Et c'est aussi les MLS. C'est pas non plus les meilleurs championnats. Donc en fait, voilà.
Donc il y a des questions quand même qui se posent autour de ça. Je comprends bien qu'il soit intouchable. J'ai l'impression qu'il l'est, en tout cas intouchable.
C'est pas forcément intouchable. C'est juste, je pense qu'il va réussir et j'espère à les manager parce que ça reste quand même un joueur qu'on éliminatoire. James, il a réussi à être très décisif. Je pense que c'est les joueurs même les plus décisifs des éliminatoires avec 7 passes décisives et 3 notamment qui ont fait que la Colombie elle est aujourd'hui en Coupe du Monde alors qu'elle n'était pas en Qatar 2022. Donc je pense qu'il a toujours sa place, mais qu'il faut effectivement réussir à trouver les justes milieux pour ne pas griller les joueurs.
Pour que ce ne soit pas construit qu'autour de lui, parce que le problème c'est qu'on se pose, c'est quand il n'y a pas James, il y a des possibilités, il y a 2 joueurs qui peuvent plus ou moins le remplacer, mais des joueurs parfois qui ne peuvent pas jouer les 90 minutes, par exemple, comme Juan Fernando Quintero, qui joue à River Plate, par exemple. Voilà. Donc, je pense qu'il y a cette question aussi, ce que tu disais de Néstor Lorenzo, oui, il lui fait une confiance presque aveugle. Là, il est même parti à Minnesota pour discuter avec lui, pour discuter avec les dirigeants du club, parce qu'ils veulent qu'il vienne, ils disent, qu'il vienne plus vite avec la Colombie. Et aussi, il faut se souvenir, au moment où James joue la Copa América en 2024, où il a été le meilleur joueur de cette compétition, et on a à nouveau vu ce grand James.
Au final.
C'est Lorenzo qui dit, non, viens, alors qu'il était à un moment donné terrible de sa carrière. Il y avait eu tous ces changements de club et il n'était pas vraiment bien physiquement. Et finalement, il a montré ça. Et pour certains, on reste sur cette idée de peut-être pour la Coupe du Monde, ça va être pareil. Même si il a passé quand même 5 mois sans jouer.
C'est une vraie question. Voilà, l'état de forme, l'état de physique de James Rodriguez. Et ça dépendra aussi de ça, parce que c'est le capitaine, en plus d'être ce numéro 10 sur le terrain. C'est un leader. Allez, tout de suite, on s'intéresse à d'autres hommes à suivre dans cette Colombie. Dans ce podcast After Coupe du Monde spécial Colombie, on est avec Natalia Ruiz-Giraldo, Cindy Colmenares, deux spécialistes du foot sud-américain. On va parler dans un instant, c'est promis, de la star. Donc maintenant, il faut l'appeler Lucho, j'ai bien compris. Luis Diaz et du sélectionneur aussi. Mais d'abord, on va revoir, pour ceux qui n'ont pas suivi les qualifications sud-américaines, comment la Colombie s'est qualifiée pour cette phase finale de la Coupe du Monde 2026. Elle a terminé troisième hein, derrière l'Argentine et l'Équateur. Surprenante équipe d'Équateur. En termes de bilan, ça donne 7 victoires, 7 matchs nuls, 4 défaites hein, en 18 rencontres. 28 buts marqués, 18 encaissés. C'est la deuxième meilleure attaque derrière l'Argentine. Bon, il y en a 6 qui ont été marqués sur les 28 face au Venezuela, désolé. Mais des victoires quand même notables face au Brésil, notamment.
Bah, celle-là, elle était très belle, notamment parce qu'en fait...
Contre l'Argentine aussi.
Oui, ouais, évidemment. Mais alors, l'Argentine, c'est autre chose. Ouais. Mais par rapport au Brésil, c'était beau parce qu'il y a quand même 2 buts de Luis Diaz, encore lui, en même pas 4 minutes dès la tête. Mais c'est quand même extraordinaire, les gars. Et face à l'Argentine, moi, je dirais plus que c'est une question de température. Parce que c'est vrai qu'ils sont joués à Barranquilla. Voilà, donc c'est une bouillotte, quoi. C'est 80-70 d'humidité avec tous les folklores qui va avec. Je sais que les fans, ils mettent, Nathalie, elle pourra peut-être nous le dire, la tête sur l'eau bénite avant de jouer. Non, mais c'est ce qu'on aime aussi du foot. Et il réussit quand même à gagner. Mais je pense que les matchs les plus beaux des éliminatoires, je me suis regardé les buts parce que c'était c'est vraiment un festival. C'était contre les Chili. C'est limite qui n'a pas marqué. Voilà. Ouais. Donc, très beau match également. Donc, ils ont fait une belle campagne, mais ils ont aussi eu des périodes où ils ne sont pas forcément sans gagner.
Il y a 6 matchs, à un moment donné,
quand
on ne gagne rien.
Mmh. Voilà, où ils ne gagnent rien.
Une période très forte en qualification. Il y a ces 6 matchs où on ne gagne pas. Et à chaque fois, on dit « Ah, c'était le match de la qualif. Ah non, le suivant. »
Ça n'a pas été si simple de se qualifier pour la...
Voilà, vers la fin. Donc, c'est là où on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne gagne plus? Ça ne marche plus? Parce qu'à chaque fois, on joue avec cette idée de Barranquilla dont tu parlais. Barranquilla, il fait extrêmement chaud, c'est très humide. Et c'est fait exprès, en fait, pour que les équipes rivales elles aient du mal. À une époque, c'était Bogota, la capitale, parce que c'est à 2600 mètres. Donc, on jouait avec altitude. Maintenant, on joue avec la chaleur. Mais effectivement, là, ça va être... c'était compliqué.
C'est bon.
elle est là, la Colombie. Elle s'est bien qualifiée, on l'a dit. C'est vrai qu'il y a quand même un petit bémol pour tous ceux qui regardent ce podcast et qui ont vu le match contre l'équipe de France. On n'a pas vu la meilleure Colombie contre l'équipe de France. Alors, ce n'est pas la seule équipe qui va souffrir contre l'équipe de France, mais on s'attendait peut-être à mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce qui a été dit en Colombie suite à ce match de prépa. Ça restait un match de préparation, mais c'est quand même le dernier match en date, le dernier souvenir que l'on a de la Colombie.
Bah, en Colombie, en France, mais je vais te laisser aussi prendre la main par rapport à ça, mais je pense que c'est là justement où il y a des questions très fortes qui ont commencé à se poser par rapport déjà à la défense. Mais de toute manière, l'ADN de l'équipe colombienne, c'est plutôt vers l'attaque. Quand on a eu un entraîneur, enfin vous avez eu en Colombie, c'est mon côté un peu Grand Colombie, Venezuela, bon bref. La Colombie a eu un entraîneur là-bas qui s'appelle Queiroz et qui a vraiment commencé, ils étaient un peu frileux, qui a commencé à miser sur la défense. Attention, l'équipe, elle n'était pas libérée. Elle était même catastrophique. En 2020, ils ont subi des défaites très grosses, notamment une contre l'Équateur. Donc, en fait, il ne faut pas non plus qu'on bascule du côté... il faut complètement fortifier que la défense. Je pense qu'il y a eu des belles choses et que la France est une quand même nation...
Oui, bien sûr.
Très, très forte, qui peut déstabiliser vraiment tous ces genres d'équipes. Donc, je pense qu'il faut relativiser.
Voilà,
oui, la Croatie,
la défaite,
je sais qu'aussi...
C'était... Match de préparation, défaite 3-1.
Faut relâcher. Mais le problème, c'est qu'on se dit, c'est 3-1 face à la France, ok, mais c'était l'équipe B de la France. Et donc, on se disait, ah oui, bah, regardez qui est sur le banc. Et donc, on fait, oh là là, si on se prend 3-1, si on perd 3-1, face à l'équipe B, on ne veut même pas savoir s'il y a tous les titulaires sur le terrain de jeu. Donc, ça a posé beaucoup de questions par rapport à cette Colombie, parce qu'on vient avec beaucoup de triomphalisme. Et ça, c'est un défaut énorme qu'on a en
mais
Colombie.
Mais c'est comme ça que vous gagnez.
Oui,
c'est comme ça que vous gagnez.
Dès qu'on a l'équipe, on dit « Ah, on va gagner, on a les meilleurs ». Comme en 1994, on se retrouve parfois avec des flops énormes. On espère que ce sera 2014, pas le cas, hein, on touche du bois. Mais c'est vrai que là, ça a posé beaucoup de questions. Et donc, on demande beaucoup à Nestor Lorenzo de trouver des réponses assez vite.
Et ben justement, très bonne passe décisive, Natalia, puisqu'on va en parler de ce Nestor Lorenzo que peu de gens connaissent, puisque c'est un peu un assistant qui finalement est devenu numéro 1 argentin, 60 ans. Nestor Lorenzo qui a remplacé Rueda en avril 2022. Et il a un lien, tu en parlais un petit peu Cindy, avec Pekerman, qui a fait donc les belles heures de la Colombie, puisqu'il était le sélectionneur en 2014 et en 2018. Pekerman et son adjoint, c'était ce Nestor Lorenzo. Donc on imagine évidemment qu'il a appris beaucoup de Pekerman et que le style que l'on a pu voir peut-être en 2014 pourrait être le même, même si ce sont des joueurs un peu différents, en 2026.
Alors moi, je dirais que déjà, c'était son adjoint et je pense que surtout, ce qu'il amène Nestor Lorenzo, c'est la confiance. C'est ça qui l'a influé sur cette équipe. Et au-delà de ça, je pense qu'il a vraiment puissé sur l'héritage de cette équipe qui est plutôt la technique aussi, parce que c'est une équipe qui peut être très verticale, très agressive. Et donc, c'est ça aussi qu'on aime de la Colombie. Mais toute cette partie-là, technique, même puisser un peu ou améliorer les blocs. Donc, je pense que c'est à ces niveaux-là que ça a apporté quelque chose.
Oui. Après, le problème de Lorenzo, il est très critiqué. C'est parce qu'il se remet rarement en question. Ah. Même après la défaite, par exemple, face à la Croatie en mois de mars, il dit « Ah non, moi, je trouve qu'on a fait un bon match. C'était plutôt bien. » Et bien sûr, il y a eu des critiques dans tous les sens. Disons, on ne peut pas commencer à être... comme ça, à se dire, bon, c'était pas grave. Donc, il y a ce problème de remise en question. Il y a peut-être aussi ce problème de cette équipe qui va tourner toujours autour de James Rodriguez. Quand on demande, il faut peut-être une autre option. On a d'autres joueurs qui peuvent être même les capitaines de cette équipe, dont Luis Diaz, par exemple. Donc, il y a aussi beaucoup cette question. Et pour l'instant, par exemple, tu parlais de la défense, il y a des problèmes dans la défense colombienne qui ne sont toujours pas réglés. Là, c'est le maillon faible, il est vraiment là. Donc, c'est ça le problème de Nestor Lorenzo. Il accorde la confiance. C'est quelqu'un qui veut aussi qu'il y ait un bon esprit d'équipe. Mm-hmm. Mais effectivement, le problème, ça va être sur ça, sur ce côté où il n'aime pas trop les changements. C'est très progressif. Hein,
oui, c'est vrai, effectivement, c'est vrai. En parallèle, on peut se dire que c'est quand même grâce un peu à lui, et on a vu une différence, une métamorphose de l'équipe. Ils arrivent à aller en finale des Copa América en 2024, et on a senti que ça leur a fait quand même du bien. Après, moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est que quand on a vu les matchs contre la Croatie et la France, on commence à se dire qu'ils ont finalement très peu de temps pour améliorer toutes les failles que tu as juste au titre signalées. Bah, il n'y a pas le temps. Donc, mais en parallèle, je me dis, c'est des joueurs qui sont capables de taper les matchs de leur vie, juste parce que c'est vrai que ce genre de compétition aussi, ça transforce.
Ça peut avoir un effet positif sur la Colombie. Juste sur Nestor Lorenzo pour finir, il a aussi peu d'expérience en tant que numéro 1. Et en tant que numéro 1, on doit aller devant la presse, on doit répondre aussi aux questions. Et parfois, il y a peut-être des petites erreurs de communication parce qu'il a ce manque d'expérience. Il a entraîné uniquement au Pérou, je crois, en tant que numéro 1, une équipe péruvienne. Voilà.
Oui, si juste une petite chose avec Nestor Lorenzo, parce qu'on, certes, on le critique, c'est normal, mais il a aussi une petite contrainte, et c'est qu'il y a les dirigeants de la fédération colombienne, ils ont vraiment une mainmise sur ses décisions.
Ah, oui.
Et par exemple, au mois de mars, on a su après que James Rodriguez, il était malade pendant les deux matchs. Et on s'est demandé comment ça se fait qu'on a demandé à James de jouer. Et on a su après qu'en fait, c'est le président de la fédération, Ramon Jesurún, qui lui dit « Il faut mettre James, on a des contrats avec les sponsors, il faut les faire jouer. » Donc, ce n'est pas Nestor Lorenzo qui a tout à fait le dernier mot.
C'est toujours la beauté de l'Amérique du Sud, désolé, mais c'est vrai qu'il y a ces affaires-là, ces situations-là qui sont très compliquées.
Alors, Nestor Lorenzo a utilisé un joueur en particulier, c'est aussi un de ses hommes de base, évidemment, c'est le fameux Luis Diaz, la star de cette équipe colombienne. On va terminer le podcast en parlant de lui, bien sûr, parce qu'on l'a vu briller avec le Bayern de Munich et notamment en Ligue des Champions, demi-finaliste. Luis Diaz, c'est 72 sélections, 21 buts. Il a 29 ans déjà quand même, Luis Diaz, mais on a l'impression que cette saison, il explose. Alors, il était déjà très doué à Liverpool et c'est pour ça que le Bayern est venu le chercher. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Cindy, Natalia, mais j'ai l'impression quand même qu'on est là sur un des meilleurs joueurs de la planète. Il est devenu un des meilleurs joueurs de la planète cette saison, avec, de par ses performances avec le Bayern Munich. Hein.
Non, et puis il a essuyé pas mal de critiques quand même. Au moment où il était à Liverpool, il y a toujours cette petite musique, il revenait en Colombie en disant « Ah oui, mais très bien, il est excellent à Liverpool, mais à la maison, bon, bah, c'est pas trop ça. » On l'a entendu aussi avec Messi, ça, souvent. Ouais. C'est souvent le cas des très grands joueurs. Et ensuite, même quand Bayern va les chercher, parce que c'est un énorme joueur, on commence à dire « Oui, mais alors, avec son âge, 75 millions, mais pourquoi ?» Enfin, donc, il a toujours un peu quand même... essuyer ce genre de critiques qui étaient quand même un peu injustes. Aujourd'hui, Luis Diaz est quand même un très grand joueur en Amérique du Sud, les meilleurs Colombiens de toute manière en Europe. Déjà, c'est difficile parce qu'il y a toujours ces petits côtés où on s'est dit, pour un joueur, être ailleurs qu'en MLS et en plus être en Europe, c'est déjà énorme. Mais être en Europe et en plus au Bayern Munich et jouer 47 matchs et faire 28 buts, 17 passes décisives, c'est là qu'on s'est dit. Mais enfin, il est
stratosphérique. Bravo,
c'est un excellent. Non, mais il est vraiment, est vraiment excellent. Ouais. Et donc, il a, c'est vrai que bon, il y aura toujours la critique, la presse parlera toujours, on est là aussi.
Il va avoir la pression là, quand même, pour la Coupe du
Monde. Bien sûr, parce que ce qu'on va avoir,
on va attendre.
C'est la star
qu'il
de l'équipe.
Fasse les mêmes performances que Bayern.
Exactement, on va lui demander de marquer des buts. Si on ne le voit pas marquer, on va dire. Il n'est pas bon. Ça, c'est parce qu'on est très dur, en fait. On les adore, mais les supporters colombiens sont très, très durs et ils vont dire il est nul s'il ne marque pas.
Ah, un peu comme les Français, en fait.
Voilà. Maintenant, marrant, il a beaucoup mûri aussi, Luis Diaz, parce que c'est quelqu'un de très réservé, de très discret. Mais peu à peu, il parle un peu plus, même pendant ses matchs amicaux, qui restent quand même une espèce de référence un peu de ce qui s'est passé ces derniers temps avec la Colombie. On l'a entendu vraiment furieux sur le terrain de jeu, parler avec ses coéquipiers, leur dire « Oh, il faut faire des choses ». Donc, il y a un peu ça aussi qui va se jouer, mais c'est notre Lucho Díaz qui est... Voilà, on attend beaucoup.
On attend beaucoup de Luis Diaz. On va voir, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, une équipe type. Alors évidemment, il y a encore des questions, notamment à la pointe de l'attaque. On peut citer Luis Suarez, qui est passé par Marseille, mais qui a fait une saison formidable avec le Sporting, qui sera peut-être l'avant-centre. En tout cas, il marque beaucoup de buts avec le Sporting, meilleur buteur du Portugal. On peut citer aussi Richard Rios, au milieu de terrain, qui joue au Benfica, qui est un joueur... qui était convoité par les plus grands clubs, qui vient de Palmeiras et qui a signé cette saison à Benfica. Bref, il y a quand même du beau monde. On a compris que le problème, c'était la défense, mais il y a du beau monde pour cette équipe colombienne. Il y a de quoi faire quand même. S'il y a un joueur là qu'il faut suivre absolument, Natalia ?
Ah, je dirais, oui, là, on le voit à l'écran, le Luis Suarez. Pense qu'il a eu des opportunités, mais lui, il peut être le buteur si les choses, elles marchent bien, comme on dit, ça quoi. C'est-à-dire, ça prend.
C'est longtemps que j'entends.
Ça prend forme.
Et toi, t'as un nom, Sylvie ?
Alias, moi, j'ai dit idée, et puis, pas très original, mais effectivement, je pense que même Luis Diaz et James vont briller pendant ces Coupes du Monde.
Eh bien, on espère, parce que la Colombie, on va la suivre de près après ce podcast. Merci beaucoup Nathalie Arruy-Giraldo, je rappelle, journaliste France 24, merci d'être venue. Merci beaucoup à Cindy Colmenares, merci beaucoup Cindy, journaliste spécialiste du foot sud-américain. D'autres équipes, bien sûr, que vous pouvez retrouver en podcast sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes, sur YouTube aussi, c'est en podcast actuellement, donc n'hésitez pas pour vous renseigner sur les 48 équipes de la Coupe du Monde, c'est sur RMC que ça se passe. Merci beaucoup à tous et bonne Coupe du Monde, à bientôt.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.